Bonjour à tous et bonjour aux internautes. Bienvenue à ce dernier cours de l'année, sixième et dernier, donc sur prouver le programme. Et cette fois-ci, on va parler de vérification et optimisation booléenne d'automates et de circuits. Donc, ce cours sera suivi par un séminaire de Jean-Raymond Imbrial, un des grands acteurs de l'informatique française depuis très très longtemps, et qui vous parlera de la formalisation. Et pourquoi ça sert aussi dans les programmes industriels compliqués. Alors, l'optimisation booléenne et la vérification booléenne, c'est un sujet extrêmement important qui est né il y a longtemps, qui est né en fait dans les circuits dès la construction des premiers ordinateurs. Et pourquoi ? Parce que il fallait faire des portes et la logique, et que le calcul booléen, ça s'écrit un peu comme on veut et ça se transforme dans tous les sens. Et pour être efficace, c'est pas simple. Mais les vrais codages booléens sont plus récents, ils datent des années 1980, et je tiens à en parler beaucoup parce qu'on les a énormément utilisés pour STRL, et je vais vous montrer pourquoi ils sont clés dans tout ce qu'on a fait sur STRL aussi. Alors, aussi en l'honneur de Jean-Raymond Imbrial, je voudrais faire des définitions assez précises. Un des problèmes du sujet, c'est que quand vous lisez les papiers, particulièrement dans le domaine des circuits, les formalismes et les définitions sont pour le moins cavaliers des fois, pas précis, il y a des dizaines de notations différentes et des mots assez rigolos, des mots assez artisanaux, je dirais. Et donc, on va essayer d'être précis parce que c'est un sujet qui est très simple, c'est des mathématiques très élémentaires, mais il faut bien le prendre, il faut bien le comprendre. Et puis, c'est un sujet dont on pensait qu'il était insoluble jusqu'à il n'y a pas longtemps et qui s'est avéré soluble en pratique dans de très nombreux cas avec des avancées absolument majeures. J'avais prévu dans mon programme initial fait l'année dernière que ce cours s'appellerait les BDD, Binary Decision Diagrams. Donc, nous, on se dit que c'est probablement la structure de données la plus importante inventée à la fin du XXe siècle. Et que nous, on ne se dit pas ça à la légère, mais je pense qu'il faut d'abord parler du calcul booléen. Je vais vous parler un petit peu de BDD aujourd'hui. Le premier cours de l'année prochaine, ou le deuxième, je ne sais pas encore, sera consacré vraiment au BDD, à comment ça marche. Et c'est des structures tout à fait fantastiques. Alors, l'agenda, voilà, codage booléen d'ensemble, première chose, codage d'automates et de circuits, model checking booléen, des arbres de Shannon au BDD, et puis de l'optimisation de circuits STRL, et ça nous occupera bien tout ce cours. Alors, d'abord, on va commencer par les codages booléens. Alors, je voudrais être assez précis, encore une fois, mais pas à 100% sec, donc je vais employer des notations assez claires. Alors d'abord, les booléens seront notés 0 ou bottom et 1 ou top. Jusqu'à maintenant, j'ai noté que bottom et top, mais 0 et 1 sont traditionnels dans le monde des circuits et ils seront toujours roses, hein, selon mes conventions. La logique est rose et les objets terriens sont marrons et les variables sont bleues. Hein. Je garderai ça encore une fois complètement tout le temps. Donc on va se donner deux ensembles, un ensemble E d'objets, n'importe quoi, E0, EN. Ça commence à 0, hein. L'un des index commence à 0, ça c'est important. Vous allez voir pourquoi. Il est non vide, donc n est positif ou nul. Et un ensemble codeur non vide dont les objets sont appelés des variables. Et donc voilà comment on va. C'est avec ces deux ensembles qu'on va travailler, l'ensemble des choses à coder et l'ensemble des choses pour coder. Alors, une assignation booléenne sur x ou bien un code, c'est simplement une fonction de x dans 0, 1. Ça veut dire que ça associe soit 0, soit 1 à chaque variable. Donc, c'est une valvation des variables 0, 1. Ça, ce n'est pas compliqué. C'est un code, ça s'écrit C rose. Alors, un code C, ça se note de plein de façons. Ça peut se noter comme un n-uplet des valeurs ou bien comme un mot sur 0, 1 dont la i-m lettre vaut le code. Et 0 est toujours à gauche. Hein. Donc, par exemple, si j'associe 1 à x0, 0 à x1, etc., le code peut se noter 1,0011 ou bien 10011. Ça dépend de l'utilisation. Ça, c'est la notation la plus compacte et qu'on va utiliser assez souvent. Bien, il faut toujours se rappeler que le 0 est à gauche. Hein. Le sens de notation, c'est important. Alors, un codage, c'est défini par une fonction partielle surjective des codes sur x dans e. Alors, partielle surjective, c'est des choses qu'on apprend à l'école, normalement. Mais je les rappelle, ça veut dire que là, ça veut dire chaque E doit être codé, chaque élément doit être codé. Il peut être codé par plusieurs codes et il peut y avoir des codes inutilisés. OK ? Donc il y a des codages redondants dans lesquels il y a plusieurs codes pour un point et d'autres injectifs dans lesquels il n'y a qu'un code. Voilà, donc c'est quelque chose, je prends des codes et je leur associe des points de telle manière à ce que tous les points soient codés. Alors, exemple numéro 1, alors le plus bête, le codage binaire classique. Donc, j'écris mes nombres en binaire. Et là, c'est simple, le nombre 0 code 0, le nombre 1 code 1, etc. Ça, c'est pas compliqué. La taille de K qu'il faut pour ça, c'est le bin size de N, c'est le nombre de bits qu'il faut pour écrire R en binaire, qui est de l'ordre de log 2, mais pas tout à fait. Et c'est bin size moins 1. Hein. Il faut 3 bits pour écrire 7 et 3 bits pour coder. Parce que K, il faut K, ça veut dire 0, 1, 2, donc il y a 3 bits. OK. Codage de Hadik, on a vu les deux Hadik assez longuement en 2013, pour les circuits, c'est vraiment l'outil de base pour les circuits. C'est la même chose, mais écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire on met les poids faibles d'abord, hein, ce qui est beaucoup plus logique quand on a des nombres de longueur variable d'ailleurs. Et donc, ben, c'est juste que vous lisez les nombres dans l'autre sens, donc ça c'est 0, ça c'est 1, 2, hein, le 1 est à droite, etc. Ça c'est le codage de Hadik. Et aussi le codage, un codage qui va nous servir beaucoup, le codage OneHot. One hot, ça c'est typique du vocabulaire hardware, ça veut dire il n'y en a qu'un chaud. Pourquoi chaud ? Parce que quand vous mettez du courant dans un fil, il chauffe, donc il n'y a qu'un seul fil chaud. Et voilà, c'est vous allez prendre le même nombre de bits que le nombre d'éléments, un bit par élément, et il y a un seul bit, donc le bit 0 pour 0, le bit 1 pour 1, le bit 2 pour 2, etc. Donc c'est un code qui est injectif, il y a un seul codage pour chaque nombre, mais c'est un code partiel, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées, et vous allez voir que ce code est tout à fait utile. Un code redondant, pour le plaisir, je n'en utiliserai pas, qu'on a déjà vu, je n'utiliserai pas dans le reste du cours, mais qu'on a déjà vu pour les circuits, un code très fondamental, qui consiste à coder avec deux fois la taille binaire, et donc ici, vous voyez, chaque 0 se code d'une seule façon, mais par exemple 3 se code de plein de façons. Comment est-ce qu'on lit ce code ? Eh bien, on prend un code quelconque, 0, 1, 1, 0, on va séparer les deux morceaux, et on va les lire comme deux nombres écrits en deux hadik. Donc 0, 1 écrit en 2 hadik, ça fait 2, et 1, 0 écrit en 2 hadik, ça fait 1. Vous pouvez le faire en binaire, pareil. Vous faites la somme de ces deux trucs-là, et ça vous donne le numéro. Voilà. Donc 0, 1, 1, 0, c'est 2 plus 1 égale 3 qui code 3. Et ça, ça fait quoi ? Ben, ça, c'est 3 plus 0, ça, c'est 2 plus 1, 1 plus 2, et 0 plus 3. Toutes les façons de coder ça. Alors pourquoi ce code est-il fondamental ? Si vous regardez le cours sur les entiers, sur les circuits, vous verrez que ce code est fondamental pour faire l'addition et la multiplication à la même vitesse. Ce qui marche pas du tout pareil en logiciel, mais ça se fait en log n. Et c'est complètement non trivial que la multiplication se fasse à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle les codes étendus du boulier chinois. Les bouliers chinois, ça marche comme ça aussi. Bon, j'en parlerai pas plus ici, mais c'est pour vous rappeler que tout ça, ça se relie à tous les cours précédents. Alors, les formules booléennes maintenant. Les formules booléennes, ça s'écrit avec les variables. Uniquement celle-là pour l'instant, et puis top, bottom, et qui peut être noté par rien du tout comme un produit, c'est traditionnel dans les circuits, ou le complémentaire qui peut être noté par une barre au-dessus, l'implication et l'équivalence qui pourrait se noter égal, mais je préfère toujours mettre équivalent parce que égal est tellement surchargé que ça va. Et donc, si j'ai une formule, je peux associer, je peux donner des valeurs aux variables. Et si j'ai un code C qui donne donc des valeurs aux variables, je note P de C, c'est P de C de X0, C de XK. Donc c'est prendre la formule sur le code. Tout ça est trivial. Alors, un mot classique aussi, un min-terme. Alors un min-terme, bon, c'est pas moi qui choisis le mot, c'est juste la conjonction, donc ça c'est une conjonction, hein, comme c'est marqué ici, une conjonction de variables ou de leur négation. Et ça, on voit que c'est une autre façon de noter un code. Pourquoi ? Parce que si je prends cette conjonction-là, il n'y a qu'un seul code qui la rend vraie, c'est ce code-là. Donc c'est une autre façon, donc vous mettez des barres là où il y avait des 0, et pas de barres là où il y avait des 1, et le min terme est caractéristique du code, c'est un terme qui est vrai s'il est seulement pour ce code-là, il est faux pour tous les autres codes. Donc ça va évidemment nous servir à coder les éléments. OK. Et alors, quand il y a des codes redondants, il faut faire attention quand on va travailler avec des prédicats, par exemple, c'est-à-dire des formules dont c'est la valeur de vérité qui nous intéresse, eh bien, on va travailler uniquement avec des prédicats qui sont compatibles avec le code, c'est-à-dire que si deux codes C et C' codent un élément et codent le même élément, alors le prédicat est égal pour les deux. Ça ne va pas nous servir aujourd'hui, mais il faut faire attention à ça quand on a des codes redondants, sinon on peut faire des calculs faux. Alors, comment est-ce qu'on code ? Qu'est-ce qu'on fait d'intéressant avec tout ça ? Ben, la plus intéressante, c'est de coder des sous-ensembles. Donc un sous-ensemble en maths, c'est défini par un prédicat, le prédicat qui caractérise les éléments de ce sous-ensemble. Mais un prédicat, ça se définit par une formule booléenne. Et donc, étant donné un codage et une formule booléenne, je vais appeler le sous-ensemble C de P de E, donc marron, les objets codés par P, c'est celui qui contient les éléments codés par des codes vérifiant P, c'est très évident. Donc c'est l'ensemble des C de petit c, tel que C de petit c est défini. Je vous rappelle que C peut être partiel et P de C est vrai. Donc, voilà, on code simplement la théorie des ensembles habituelle en disant que ce prédicat s'écrit en booléen parce que les codes sont booléens. Alors, ça a plein de propriétés intéressantes tout de suite. La première, c'est que l'ensemble total est codé par vrai et l'ensemble vide est codé par faux. Et donc, on voit immédiatement quelque chose d'essentiel par rapport aux méthodes explicites, c'est que la taille du code, la taille de la formule qui code un ensemble n'a rien à voir avec la taille de l'ensemble. Si vous avez 12 000 variables, la taille de E, c'est 2 puissance 12 000, et le code de E, c'est bottom, c'est top. C'est top, OK ? Et il n'est pas plus gros que le code pour vide. Donc, il n'y a pas de rapport simple entre la taille de l'ensemble codé et la taille de la formule, ce qui va permettre d'avoir des formules qui permettent de parler de très grands ensembles dont on ne peut pas parler explicitement. Ça, c'est le gros intérêt du calcul. Bien. Si vous avez un élément E, la façon de le coder, c'est la disjonction des min-termes de ces codes. Bon, alors ici, on sera injectif maintenant, donc ça, dans un code injectif, ça, c'est exactement la code de ça, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Okay, donc au lieu de prendre les 1, les 0 et les 1, on prend les variables dans l'ordre et on leur met des barres ou pas. Tout sous-ensemble peut être codé. Il peut être codé, par exemple, en prenant la disjonction de tous les codes élémentaires de ces éléments, en énumérant tout sous-ensemble fini. Mais on ne va être que dans le fini. Il peut être codé comme ça. Ça ne dit pas que c'est bien, c'est intelligent. Hein. L'avantage du calcul booléen, c'est qu'il y a énormément de façons d'écrire des formules équivalentes, et ce n'est évidemment pas comme ça qu'on va les coder. On va les coder avec des prédicats malins qui vont venir des programmes, du calcul, etc. Mais au moins, on est sûr que tout sous-ensemble peut être codé. L'intersection est codée par le « et l'union par le « ou ». Ça, c'est Boole qui avait déjà compris ça. Le complémentaire est codé par « non-p ». Il faut bien vérifier tout ça, que le code soit compatible si c'est des codes redondants. Hein. Voilà, donc on a les opérateurs ensemblistes sont directement les opérateurs booléens et on sait tout coder. Maintenant, le coder efficacement, c'est un autre problème. Hein. C'est vraiment un autre problème qui dépend de beaucoup de choses après. Alors, ce qu'il faut coder après, c'est les relations et les fonctions. Une relation, toute relation peut se représenter par une formule booléenne, cette fois-ci sur deux jeux de variables, tels que R de C et de C', c'est-à-dire si je mets deux codes là-dedans, est vrai si et seulement si C est le code d'un élément E, C' est le code d'un élément E' et R de E, E'. D'accord ? Il faut que la relation soit aussi compatible avec le codage s'il est redondant. Ça c'est très simple, hein. il suffit de construire un énorme OU de conjonction E et E' pour tous les E' vérifiant E', où E et E', c'est les unions de min-termes des codes. Donc vous prenez ce qu'il y avait avant, vous énumérez la relation. C'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire, c'est juste un truc qui prouve qu'on peut le faire. Toute fonction peut se représenter par un vecteur de formule. Une fonction qui va prendre k éléments et rendre k éléments, eh bien, ça peut se représenter comme un vecteur de fonctions qui prennent k éléments et rendent un élément, qui peuvent elles-mêmes se représenter par des formules, vu que ce sont des relations fonctionnelles. Donc, vous pouvez coder, ça c'est bien connu, en booléen, vous pouvez coder n'importe quelle fonction booléenne avec des et, des ou et des non. Comment le faire ? Vous avez des bouquins épais comme ça pour le faire, hein, mais ça c'est un autre problème. Bien. Donc, on sait coder des relations, on sait coder des fonctions. Avec ça, on va déjà savoir coder les automates. C'est le premier truc qu'on va s'amuser à coder parce que vous allez voir quelque chose de très surprenant dont j'ai déjà parlé, mais que tout le monde n'a pas encore réalisé. Voici un automate déterministe qu'on a déjà longuement étudié en 2009. Donc, c'est un automate tout simple déterministe qui va reconnaître un langage AB plus B étoile BA. Ça n'a pas d'importance et on va le coder. Donc, on va coder les états. Ici, je les code en dyadic, donc 0, 1, 2 et 3, vous pouvez les coder en binaire, c'est pareil. Et voilà, donc l'état initial, c'est x0 bar x1 bar, le min-term, puisque c'est 0, 0. L'état final, c'est x0, x1. Et la relation de transition, on va prendre d'abord la relation de transition pour A. Qu'est-ce qui se passe si je fais un A ? Si je fais un A, je passe de 0 à 1, D'accord ? Donc la relation, ça dit ici 0 et ici 1. OK ? Donc ça, ça traduit le passage de 0 à 1 par A. Et ça, ça traduit le passage de 2 à 3 par A. C'est tout bête, il suffit de recopier. Hein. C'est des exos de 5e. Mais c'est tout bête, mais quand on n'est pas habitué, il faut s'habituer. TB, ça, c'est pareil, mais il y a 4 flèches pour B. Il y a E1 à E0, E0 à E2, E2 à E2 et E2 à E3. Et puis, je me suis crevé les yeux pour voir que c'était bien juste. Et je pense que c'est juste. Donc, vous le codez tout à fait bêtement. Et maintenant, la relation générale, ben, vous pouvez dire que vous allez prendre une variable de plus pour A, vous allez prendre une variable de plus pour B, et vous allez dire que la relation générale, celle qui dit qu'il y a une transition par A ou B de l'un dans l'autre, c'est A était A ou B était B. Puis il y a peut-être un truc en plus, j'ai parlé déjà des environnements, je ne vais pas les détailler, mais peut-être il faudrait dire que A et B n'arrivent pas en même temps. Ce n'est pas forcé, ça dépend des automates qu'on a. On essaierait, ce n'est pas un problème que ça arrive en même temps. Mais dans les automates classiques, on prend les lettres une par une. OK, donc ça, c'est tout à fait simple. Maintenant, on peut aussi coder différemment la fonction de transition de l'automate. Les relations, ça double le nombre de variables, donc ça va poser des problèmes de les calculs. Dès qu'on a des fonctions, on est plus à l'aise. Donc la fonction, c'est quoi ? Ben, d'abord, pour que ce soit fonctionnel, il faut compléter l'automate, parce qu'il manque des flèches. Il n'y avait pas de flèches A partant de E1. Donc j'en rajoute une avec un état bidon qui boucle sur lui-même. Comme ça, tout est défini. L'automate est complet. Alors, là, il faut 3 bits, vu qu'il y a 5 états. Et ce que je vais dire, la fonction, c'est qu'elle va calculer les nouveaux bits de code en fonction de l'état où on était. Donc, les états initiaux, ça, c'est l'état initial, voilà tous les états, là, et ça, c'est l'état erreur, si on veut. Et voilà le codage booléen. Le codage booléen, on part de 3 bits, et on va dire, je vais arriver sur 3 bits. OK ? Donc, comment j'arrive, par exemple, comment est-ce que je mets le bit 0 à 1 ? Je peux le mettre par cette flèche-là, ou je peux le mettre, le bit 0 à 1, je peux le mettre par cette flèche-là, ou par cette flèche-là, puisque le bit 0, il est mis à 1 ici aussi. OK ? Donc, c'est E0 et A, ou E2 et A, ou E0 et E2, c'est là. Et puis, je fais ça pour les 3 bits, et donc, vous regardez le bit du milieu, quand est-ce qu'il passe à 1 ? Il passe à 1 dans cette transition-là, et il passe à 1 dans cette transition-là, et il passe à 1 dans cette transition-là. Et le bit qui est là, le dernier bit, là, c'est le bit d'erreur, si on veut, il va passer à 1 dans cette transition-là, dans celle-là, et dans ces deux-là. Là, il y en a deux, en fait. Donc, vous avez ici un triplet d'expressions booléennes qui vous code vraiment la transition de l'automate. Bon, très bien. Alors, on peut faire autre chose avec un automate, on peut en faire un circuit. Donc, par exemple, on peut le mettre en hardware en disant, ça, c'est un point mémoire, c'est un registre. Et à chaque cycle, il va reconnaître une lettre, l'automate. C'est un registre et les transitions sont dessinées par des portes. Par exemple, la transition qui dit on va de E0 à B à E2 par B, c'est celle-là. Quand ce registre a un 1 dedans et qu'il y a B qui arrive à l'extérieur, on passe cette porte E, cette porte OU, et on va remplir ce registre. OK, donc ça, c'est très simple. Alors, ça se code comment ? Ben, la relation de transition de ce circuit va se coder comme ça. Quand est-ce que x'0, quand est-ce que x0 va passer à 1, c'est quand celui-là vaut 1, et c'est donc, quand est-ce qu'on arrive là, c'est qu'on part de 1 par B, ou qu'on part de là par B. Donc c'est E1 ou E3, et B et x'0. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai raconté là ? Ah oui, c'est une relation de transition, oui. C'est une relation de transition. C'est juste fou. Ah non, c'est ça. On était dans E1 ou dans E3 et on a B et on fabrique x'0. Pardon, c'est tout à fait juste. Et la même chose pour les autres. Donc là, je code les flèches encore d'une autre façon. Bon, c'est parfait. Je peux encore les coder d'une autre façon, comme la fonction de transition qui va me dire quand est-ce que les bits, ici, quand est-ce que ce bit passe à 1 ? Eh bien, il passe à 1. Ce bit-là, par exemple, il passe à 1 quand on arrive dans cet état-là. Ou quand on était initial, by the way. Quand on arrive dans cet état-là, donc c'est E1 ou E3 et B. Hein, E1 et B, ça ramène à cet état-là, ça tourne ce bit-là, et E3, ça tourne ce bit-là. Et là, j'ai pas pris un codage binaire, mais un codage one-hot. Comme ça, chaque état est associé à chaque bit, ce qui est exactement ce que j'ai fait dans l'automate. Donc vous voyez, on a une très grande variété de codage d'automate. Et avec ça, on va pouvoir calculer des tas de choses, évidemment. Ce qui est plus intéressant, c'est de prendre un automate non déterministe. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça, c'est l'automate qui reconnaît le même langage, mais il est non déterministe parce qu'il y a deux flèches B qui partent de 0. Alors, bon, ça marche exactement pareil. On peut calculer les fonctions de transition par A et par B. On peut calculer la fonction de transition globale, qui est vraiment très simple. Bon, ça n'apporte pas grand-chose pour l'instant, parce que je ne vais rien en faire. Et puis voilà, mais il n'y a plus de fonction de transition cette fois-ci, quand c'est fait comme ça, parce que de E0 par B, eh bien, on a deux résultats et pas un. Donc ce n'est plus une fonction, c'est une relation non fonctionnelle. C'est pour ça qu'on l'appelle non déterministe. Ah, pourquoi est-ce qu'on l'appelle non déterministe ? On l'appelle non déterministe, c'est un très vieux mot qui date des années 50, je pense, ou même avant, parce que le modèle de calcul, dans toute la théorie des automates, c'est un mathématicien avec un crayon. Toute la théorie des automates est construite autour de ce modèle de calcul. Et ça va poser un énorme problème. Parce que si vous mettez cet automate en circuit, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous pouvez calculer sa relation de transition, comme on a fait tout à l'heure. Hein ? Quand est-ce qu'il y a une transition d'un état X à un état X', par A et B ? Vous pouvez la calculer, puis ça devient complètement routine, hein, donc je ne vous le fais pas. C'est ça, la relation de transition. Mais il y a un truc bizarre, c'est que le circuit, lui, il est complètement déterministe. Tous les circuits sont déterministes quand ils sont acycliques, quand il n'y a pas de boucle combinatoire. Tous les circuits sont déterministes, donc ce circuit est déterministe. Et si on le regarde comme circuit, il a une fonction de transition. Bon, là, il n'est pas fonctionnel, je l'ai dit, parce que de E0, on peut aller soit en E0, soit E2 avec les mêmes entrées. Bon, mais ce circuit est déterministe, et donc il a une fonction de transition qui détermine quel est le prochain bit qu'on va mettre à 1, quels sont les prochains bits qu'on va mettre à 1 sur une transition. Alors, vous calculez la fonction de transition, ça vous donne un truc très simple. Mais ce que vous voyez, c'est que quand vous êtes dans l'état ici, quand vous avez ce point qui est chaud, qui est à 1, et que vous mettez un B, eh bien, vous avez deux choses qui se passent en même temps. Ce B va remettre ce point à 1, et ce B va mettre ce point à 2. Ça veut dire que l'automate n'est pas déterministe, mais le circuit l'est, et il a deux états allumés en même temps. Ah, magie! Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez l'électricité dans un automate non déterministe, il devient déterministe et il calcule exactement la même chose. Alors, pour les spécialistes de théorie des automates, ce que ça fait, c'est que l'électricité réalise la construction de déterminisation des automates, qui s'appelle subset construction, gratuitement, en une nanoseconde et au vol. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de modèle de calcul. Ce n'est plus le modèle de calcul avec du mathématicien avec un crayon, c'est le modèle de calcul des électrons qui foncent dans les fils. Ah ! Et donc, en électricité, les automates non déterministes sont parfaitement déterministes. Et d'ailleurs, on peut fabriquer du code C trivialement à partir de ça. Donc, on a appris, tout l'enseignement est fondé sur le premier truc qu'on fait, c'est apprendre à déterminiser un automate. Eh bien, ça ne sert à rien, et c'est une très mauvaise idée, parce que ça le rend exponentiellement plus grand dans la plupart des cas. Un automate non déterministe est déjà déterministe, et ce qui se passe, c'est que le mot est vraiment mal choisi, et il a induit tout le monde en erreur. Et ça, c'est profond. Alors, ce n'est pas vrai pour tout, hein. Si vous faites de la négation à l'intérieur des automates, l'expression régulière, c'est moins simple. Donc, tout automate non déterministe est déterministe, il faut s'y habituer. Surtout, ne déterminisez jamais les automates, ça ne sert à rien. C'est juste, ça permet juste d'augmenter le coût de tout. Sauf dans quelques cas. Hein. Donc voilà, c'est le parallélisme de l'électricité est bien meilleur que le crayon du mathématicien. Il faut s'y habituer. Le crayon du mathématicien, c'était normal à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Maintenant, on a les ordinateurs. Le modèle de calcul, ce n'est plus le crayon du mathématicien. C'est soit Internet gigantesquement parallèle, soit des électrons gigantesquement parallèles. Donc, il faudrait peut-être enseigner autrement la théorie des automates. Hein. Voilà. Et c'est exponentiellement inutile de les déterminiser pratiquement tout le temps. Mais il y a des cas où ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Bon, alors passons au modèle checking maintenant, parce qu'on est là pour faire de la vérification. Donc passons au modèle checking. Donc, je vous rappelle, la dernière fois, on avait dit que pour faire du modèle checking, ce qu'on va faire, nous, alors pour des propriétés de sûreté, hein, je ne vais pas parler de vivacité, c'est pour l'année prochaine, on écrit un système réactif et un circuit, et on écrit un observateur, ce qu'on pourrait appeler un contrat, c'est exactement la même chose, un contrat à vérifier, et cet observateur, s'il n'est pas content, il allume une sortie qui s'appelle bug. Et puis, il y a peut-être un environnement ici, mais je vais le laisser sous la forme d'une formule booléenne qui décrit les, des entrées valides. Mais alors, il faut juste montrer que bug n'est pas allumé. Donc, la propriété, c'est exactement ce qu'on a fait en explicite la fois dernière. Il faut exprimer que bug n'est jamais émis pour tout état accessible du système réactif observateur, qui sont en parallèle, synchrone. Pour toute entrée valide, selon un prédicat de validité que vous choisissez comme vous voulez, les préconditions, le contrat d'entrée, du coup, le système, le booléen bug est faux. C'est ça qu'il faut démontrer. Et puis, on peut faire l'équivalence. J'avais déjà mentionné que l'équivalence, c'est très important. Par exemple, en STL, quand on écrit un programme chevelu, dans les circuits, c'est rarement pas chevelu, on écrit un protocole chevelu et tout, puis quand on a réussi à vraiment comprendre ce qu'il faut faire et à l'écrire, le truc marche, mais il est mal écrit, parce qu'il a subi trop de transformations et tout. Donc, c'est super, on le met au congélo, on le réécrit bien propre, et puis, sans arrêt, on demande équivalence avec le précédent. Équivalence avec le précédent. Et l'avantage, c'est que si ce n'est pas équivalent, on va avoir un contre-exemple qui dit « Ah non, ça ne marche pas pareil dans les deux. » Donc c'est extrêmement précieux. On a eu aussi, par exemple, à recoder des circuits ou des programmes qui avaient déjà été codés, mais dont il fallait améliorer les performances. Donc on avait le Verilog de ces programmes, le code source hardware, enfin du hardware si on veut, et on pouvait faire l'équivalence. Pour les machines d'état, ça marche bien, on peut faire l'équivalence avec le nouveau programme, et c'est extrêmement précieux. Et c'était utilisé, j'en ai parlé dans mon cours de l'année dernière, quand on faisait des patchs, parce que dans des circuits, on n'a pas le droit de recompiler quand on trouve un bug. Il faut aller patcher le masque. Et donc, ce qu'on faisait, c'était de patcher le code source, de modifier, de remettre à jour le code source, de recompiler, de faire patcher par les gens compétents le circuit vraiment après toute la synthèse et de faire une preuve d'équivalence automatique entre les deux. Donc c'est vraiment sérieux la preuve d'équivalence. Alors voilà, la formule booléenne, c'est la même. Pour tout état accessible du couple des deux systèmes et toute entrée valide E, le booléen bug est faux. Donc tout ça, ça se ramène au même problème, qui va être de prouver une formule booléenne, mais qui est un peu plus riche que celle qu'on avait faite avant, parce qu'elle va utiliser des quantificateurs, des images de fonctions et des images inverses de fonctions. Alors, les quantificateurs en booléen, c'est vraiment simple, ça n'existe pas, c'est juste des macros, si on veut. Pour tout x, f de x, y, c'est f de bottom y et f de top y. Vu qu'il n'y a que deux valeurs, le pour tout n'est pas dur. Pour il existe x, c'est la même chose. C'est gentil, ça, c'est très sympa, mais bon, quand on travaille avec quelques centaines de variables, ça commence à être moins rigolo. Pourquoi ? Parce que si vous faites simplement pour tout x, y, il existe zt tel que quel que soit u, machin, ça fait 32 termes si vous développez tout ça. Donc, si on travaille avec quelques centaines de variables, il vaut mieux pas développer. Donc, on comprend tout de suite que dans le calcul booléen, il y a la théorie et la pratique qui ne sont pas reliées par une fonction simple. Et là, il y a eu des travaux fantastiques. Bon, j'en parlerai. Alors, on a aussi besoin de prendre l'image d'une fonction, d'un sous-ensemble par une fonction. Donc, j'ai une fonction f, et f est codée par une formule booléenne grand F, sur les codes. Et puis maintenant, je prends un sous-ensemble de E, codé par une formule qui est un prédicat. Si on veut. Ça, c'est le truc qui décide si on est dans un sous-ensemble ou pas. En maths, on parle de l'image de P par F, qui est l'ensemble des y tels qu'il existe p, tel que y égale f de x. L'image, c'est des gens qui sont image de quelqu'un. Définition qu'on apprend à l'école, qu'on apprenait, je ne sais pas encore, je n'ai pas lu les programmes, qu'on apprend à l'école quand on est encore petit. Comment ça se fait ? En logique, on écrit cette formule-là, en théorie, il existe x0, xn, tel que il vérifie les prédicats, c'est ça qui est marqué là, et y0, yn est égal à f de 0, xn. Donc ça, c'est une parfaite formule booléenne qui nous caractérise l'image du sous-ensemble. Évidemment, elle a un petit défaut, c'est qu'on a mis plein de quantificateurs. Ah ouais, c'est la vie. Donc le quantificateur, ça va être un ennemi certain en pratique. Mais en théorie, il n'y a pas de problème. Alors, il y a l'image inverse. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Un point est dans l'image inverse f-1 de p, donc p cette fois-ci est à l'arrivée. F-1 de p, c'est tous les gens qui vont dans p par f. Ça se code exactement pareil. On dit il existe y0, yn tels que Y0YN, c'est la même chose que F de 0XN, et Y0YN vérifie la propriété P. Donc là, on travaille avec des NU pleins dans les formules, mais ce n'est pas un problème. C'est, vous faites passer les équivalents à l'intérieur des virgules, c'est la même chose. Donc on a des formules pour les ensembles, pour les fonctions, pour les relations, pour l'image inverse. On sait que partout, on a le danger de l'explosion exponentielle qui nous guette. C'est pour ça que les gens pensaient que ça, on n'y arriverait jamais avant. Hein. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien voilà, on va calculer la vérification booléenne d'un circuit ici. Mais à peu près tout ce qu'on fait, ce qu'on veut, peut se coder comme un circuit, on l'a vu pour les automates, donc le circuit, c'est une façon de nommer les équations booléennes. Donc notre circuit ici, il a des entrées avec un certain prédicat de validité, il a bug qui sort, là, c'est celui qui nous intéresse, et puis il a une fonction qui dit, quand je suis dans un état, quand j'ai une certaine entrée, le prochain état sera celui-là. Cette fonction, je l'appelle N, parce que c'est « next state ». Okay, quand j'avais utilisé f avant, c'est parce que je prenais n'importe quelle fonction. Là, je vais travailler avec une fonction précise qui est celle de mon problème, n. Alors, il y a un prédicat de validité des entrées que je suppose donné par n'importe quel moyen. En général, c'est un compilateur qui va fabriquer ce truc-là, à partir des contrats ou n'importe quoi. Et puis, on va calculer un prédicat d'accessibilité des états. Ce qu'on avait fait la dernière fois en modèle checking explicite, vous vous rappelez, on a fait progresser dans un graphe, on a progressé pour calculer tous les états accessibles depuis l'état initial. On va faire pareil, mais en symbolique, avec des formules. Donc on a un prédicat d'accessibilité qu'il va falloir calculer. Et puis voilà la formule pour vérifier que bug ne passe jamais à 1. Il est faux qu'il existe x0, xm, donc des entrées, r0, rn, donc des états des registres, tels que ces entrées sont valides, ces états sont accessibles et ils engendrent dans la fonction de sortie bug. Donc il est faux qu'il existe une entrée et un état accessible qui va fabriquer bug. Ça, c'est la formule tout à fait naturelle pour tester. Si cette formule est vraie, la preuve est terminée. Donc normalement, vous faites retour chariot, vous attendez un petit peu et ça vous répond c'est vrai. C'est très très différent de la preuve en coq, par exemple, hein, dans laquelle, quand on fait retour chariot, le prompt revient. Okay, il ne se passe rien quand on fait retour chariot. Là, c'est là que ça se fait. Évidemment, c'est moins puissant aussi. Bien. Donc voilà cette formule tout simple. Il existe des entrées et des valeurs des registres qui sont légales pour les entrées, accessibles pour les registres et qui allument bug. Bon, il y a un petit problème là-dedans. C'est, oui, faire vraiment très attention à l'exponentielle parce que là, on a juste mis beaucoup de quantificateurs. Hein. Bon, et puis il y a un autre problème, c'est comment on calcule le prédicat d'accessibilité des états. Donc nous, on faisait une marche dans le graphe, une marche en largeur d'abord dans le graphe, pour faire ça gentiment. Eh bien, on va faire la même chose, on va faire une marche en largeur d'abord. Merci à Jean-Christophe Madre de m'avoir signalé des petites incorrections dans ce que j'avais écrit dans les transparents que vous ne verrez pas. Voilà, donc on part de là. Alors on a un état initial qui, en général, mettons, c'est tous les registres à zéro, toutes les mémoires à zéro, bon, ça n'a pas d'importance. Un état initial qui est connu, ça c'est facile. On part de là, et puis ce qu'on va faire, c'est calculer symboliquement les prochains états. Alors, plus exactement, on va faire comme on faisait sur l'explicite, on va calculer les nouveaux prochains états. C'est plus pratique, ça suffit de faire les prochains états, mais on va rentrer un petit peu dans les détails du calcul un peu sérieux, on va calculer les nouveaux prochains états. Alors les nouveaux prochains états qui n'étaient pas dans A0, c'est assez simple, c'est A'1, égale l'image, donc on sait faire, l'image par une fonction, de n'importe quelle entrée et de n'importe quel état initial. Il peut y avoir plus d'un, ce n'est pas grave. N'importe quel état initial. On calcule cette image. C'est tous les états qu'on peut atteindre à partir de l'état initial. Mais si je veux la nouvelle tranche, j'enlève la tranche que je connaissais déjà, à zéro, j'enlève. Hein, ce n'est pas forcé, ça marcherait aussi sans, mais c'est pour montrer toutes les manips qu'on peut faire, c'est rigolo. Donc ici, j'ai calculé la formule qui décrit l'ensemble des nouveaux états. Je n'ai surtout pas calculé ces états. J'ai calculé la formule qui les caractérise. Et puis je recommence, j'itère, donc je calcule A'n plus 1. Ah oui, pardon, A1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les anciens plus les nouveaux et j'ai appelé ça A1. Donc A1, c'est tous les états accessibles en O plus un coup. Je recommence, à l'étage n, je calcule A'n plus 1. C'est l'image de E et de A'n Donc je pars des nouveaux États, pas de tous, c'est pas la peine, sinon je vais en refabriquer que je connaissais. Je pars de la nouvelle frange précédente et crac, je fais un coup. Donc j'avance et je coupe avec, j'enlève tout ce que je connaissais déjà. Donc ça me donne la nouvelle frange. Et puis les nouveaux États accessibles, c'est ce que je connais, tous ceux que je connaissais déjà, union la nouvelle frange. Donc je manipule à la fois la frange et tout ce que je connais. On peut faire plus simple, mais ça, c'est la bonne méthode. Pourquoi ? Parce que la frange, ça a peut-être des prédicats plus petits que tout ce que je connais. Moi, là, il va y avoir de l'alchimie. Quand est-ce que ça s'arrête ? Ben, ça s'arrête quand il n'y a plus de nouvel état. Donc le test, c'est super simple, c'est cette assemblée est vide. Cette propriété est fausse. Et une fois que ça s'est arrêté, eh ben, on prend le dernier état qu'on avait trouvé, puisqu'il ne crée rien de nouveau, c'est lui. On atteint le point fixe, c'est un calcul de point fixe hein, dans un domaine de Scott normal, et c'est un calcul de point fixe, et puis le point fixe s'arrête, hein, et là j'ai trouvé les nouveaux états. Alors attention, ce calcul, ben, quel est son coût intuitif ? Je ne parle pas du coût des calculs booléens. Eh bien là, c'est pareil qu'en explicite, c'est la somme, ce qu'on appelle le diamètre du graphe, c'est-à-dire le nombre d'états qu'il faut pour tout visiter dans un parcours en largeur d'abord. Alors, si ce graphe est extraordinairement profond, ça va vous poser des problèmes. Mais vous pouvez faire des tas de jeux rigolos, du genre, ben, en fait, là, vous avancez de 1 par 1, mais vous pouvez faire du carré. Vous pouvez faire A2, vous pouvez calculer le carré de cette fonction et avancer 2 par 2. Tout un tas de choses qui sont possibles, et les choisir, ce qu'on appelle l'iterative squaring, où il y a beaucoup de choses, énormément de variantes de cet algorithme qui peuvent l'accélérer ou pas, suivant les applications, les réglages, et ça a excité beaucoup de gens d'avoir des heuristiques. Mais enfin, le principe, c'est celui-là. Donc on fait exactement la même chose que dans l'explicite, mais avec des formules. On perd des choses. Dans l'explicite, on peut faire de l'aléatoire. On peut faire du hashcode, on peut faire de l'abstraction, qui ici sont plus compliquées. On gagne des choses, c'est que la taille des formules n'a rien à voir avec la taille des ensembles, ce qui peut être magique. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, c'est que cette formule est fausse. Et cette formule, c'est un non, il existe. Là, on est complètement en logique classique. Hein. Donc, si cette formule est fausse, c'est que ce il existe est vrai. Si cet il existe est vrai, c'est que ces objets existent. Ben oui. Donc, il existe des 0xm, R0rn qui allument bug. Ça veut dire que cette formule est satisfiable. D'ailleurs, ça donne une autre idée après, mais c'est autre chose. Alors, comment on va construire le contre-exemple ? La dernière fois, vous vous rappelez, on repartait de l'endroit où la propriété avait été trouvée fausse et on faisait une marche à l'envers dans le graphe qu'on avait exploré pour viser l'état initial et foncer jusqu'à lui. Ah bon, il faut implémenter ça, il faut faire attention quand on l'implémente, c'est tout. On va faire la même chose, mais symboliquement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Si cette formule est fausse, comme A, c'est la réunion des A'i, A, c'est la réunion de toutes les franges qu'on a fabriquées, on va commencer par trouver la plus petite i qui va générer ça, qui va générer bug. Il peut y en avoir plein. On va trouver celui qui est le plus près du sol, le plus près de l'état initial. Bon, ben ça consiste à reprendre les formules qu'on avait et puis regarder, les énumérer jusqu'à trouver une fausse. Et on peut faire ça par dichotomie, on peut faire ça comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Donc on calcule le i minimal tel que A'i et bug est satisfiable. Je ne mets plus les variables, c'est toujours les mêmes. Et le contre-exemple qu'on va trouver, il aura toujours la même forme, un état initial et une chaîne d'entrée. Un contre-exemple, c'est juste ça. On part d'un état initial et puis on va appliquer les entrées. Donc, on va le construire comme ça. Donc, on prend ce i-là. Alors là, on va choisir des vecteurs de valeur qui satisfont cette propriété. On sait qu'il y en a, mais maintenant, il faut en prendre des vrais. Ça peut occuper, ça dépend des formules. C'est le problème de satisfiabilité. Il faut trouver quelque chose qui satisfait la formule. Bon, alors là, vous allez voir, il y a des algorithmes dans tous les sens pour faire ça. Ça motive énormément de gens. Mais bon, on suppose qu'on sait faire. Il y a des copains qui s'en occupent. Et donc, on trouve ce EI et ce AI. Si I est égal à 0, ça veut dire que c'est déjà dans l'état initial que la propriété est fausse. Là, c'est votre programme, en général, il n'est pas terrible. Et bon, mais dans le contre-exemple, c'est l'état initial en question et l'entrée en question. Là, ce n'est pas fatigant. Si ce n'est pas comme ça, on va calculer l'image inverse de cet état, l'état dans lequel on sait produire bug, on va calculer l'image inverse par la relation de transition. Hein, on va revenir en arrière, on va refaire le calcul, mais en arrière cette fois. Cette image inverse, je vais l'appeler YS. Mais cette image inverse peut contenir beaucoup trop d'éléments. Donc on va la restreindre, on va l'intersecter avec les entrées admissibles et les registres de la frange précédente. Et ça, cette intersection est nécessairement non vide, de par la construction, mais il faut le prouver quand même. Hein. Je vous laisse faire, ce n'est pas très compliqué, parce que si on est arrivé à trouver bug, c'est forcément par un chemin de ce type-là, donc elle est nécessairement non vide. Donc on a choisi des éléments dans la frange du dessous, exactement comme on faisait, hein, mais cette fois-ci par des formules. Alors on a pris des formules, et ce coup-là, on a choisi un élément invrai pour donner le contre-exemple. Et puis on continue comme ça, récursivement. Donc récursivement de l'étape I, ça va me fabriquer un contre-exemple de longueur I, ici. De l'étape I-1, par exemple, ça va me fabriquer un contre-exemple de longueur I. Et puis on rajoute le EI qui était là, tac, on le met à la fin. Et donc récursivement, ça c'était quelque chose qui produisait juste ce qu'il fallait pour produire le dernier élément dont on sait qu'il émet bug. Et donc avec un calcul uniquement sur les formules, on a produit notre contre-exemple. Donc c'est cool. Produire des contre-exemples, c'est majeur. C'est majeur. Hein. C'est quand vous avez un bug, si vous dites aux gens il y a un bug, ils vous regardent tristement. Hein. Mais si vous leur dites il y a un bug et voilà la façon de le faire, c'est pas pareil. Bon. Alors, le sommaire des calculs booléens, construction des formules calculant les sorties et les transitions, ça c'est de la compilation. C'est STRL, c'est le compilateur STRL, c'est un autre bouquin. Construction des formules de validité des entrées de l'état initial, c'est de la compilation, c'est simple. Itération d'image directe, ça peut être très cher, c'est clair qu'il va falloir, c'est là qu'il y a les exponentielles, hein. Il va falloir faire gaffe. Hein. Et puis si c'est faux, itérer les images inverses et choix d'éléments, ce qui n'est pas triste non plus. Donc c'est là que vont être les difficultés. Alors, tous les calculs d'image directe ou inverse doivent être soigneusement optimisés. Et c'est là qu'il y a eu un merveilleux travail chez Bull, puis chez Digital, auquel j'ai eu la chance de participer en tant qu'admirateur et client, pour inventer des algorithmes magnifiques qu'on verra l'année prochaine pour justement faire que les quantificateurs n'explosent pas. Alors, c'est quand vous prenez l'image d'une fonction, par exemple, vous la prenez dans un certain contexte, alors vous allez commencer par transformer la fonction pour la rapetisser en fonction du contexte, tout un tas de choses tout à fait subtiles qui vont permettre au calcul de passer. J'expliquerai ça l'année prochaine. Alors, j'avais quand même promis de parler de BDD, donc les voilà, les BDD. La première structure qui a permis de faire ça. Donc, ça remonte à Shannon, et puis ça a fait beaucoup de chemin depuis. Donc, ça, jusqu'à la fin des années 80, on pensait que ce genre de calcul n'était pas abordable. Les premières idées, c'est Shannon, avec les arbres de Shannon qu'on va voir, c'est Lee qui a inventé la structure de BDD, apparemment. C'est Akers qui a commencé à utiliser cette structure. C'est Boot qui a fait des machines à base de cette structure. Et puis après, deux inventions un peu indépendantes. Bryant, aux États-Unis, Randy Bryant, qui a vraiment compris l'objet, comment l'implémenter, quelle était sa puissance. Billon et Billon, il y a un i, c'est une erreur. Hein. Billon et Madre à Bull, qui ont fait une boîte à outils de vérification de circuits qui s'appelait Priam, qui a été suivi ensuite pour Siam, pour les automates. Et ensuite, beaucoup de travaux de Couder et Madre et aussi Berthet dans les années 90 qui ont vraiment, vraiment rendu tout ça possible. Et puis, il y a des systèmes, donc Tiger, celui qu'on utilise pour STRL, que je vais remettre en service d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué de retrouver STRL. Donc Madre, Couder, Toiti, et Toiti a fait d'autres choses aussi sur 6. Et le standard maintenant, c'est CUDD, c'est de l'université de Boulder, de Fabio Somenzi, qui est vraiment public domain, truc de BDD qui marche bien. Ce n'est pas facile à faire, hein, c'est gros. Mais la structure de données, elle, est très simple. Cette structure de données a été appelée par CNUS la structure de données la plus importante de la fin du XXe siècle. Pas rien. Et vous allez voir que ça sert aussi en géométrie algébrique, en géométrie algorithmique et dans des tas d'autres endroits. Ça sert dans énormément d'endroits. Alors, la référence moderne, c'est CNUS, volume 4 de CNUS. Il a passé beaucoup de temps à écrire une merveille absolue sur les BDD, si vous voulez tout savoir. C'est pas long, ça fait 50 pages, et c'est absolument sublime. Alors, voilà un arbre de Shannon. Arbre de Shannon, c'est tout bête. C'est un grand arbre de ifs and else. je vais prendre une formule, par exemple, x0 est égal à x1 et x2 est égal à x3. Et je vais fabriquer, enfin, Shannon va fabriquer une forme normale de cette formule. Forme normale, ça veut dire que toutes les formules qui veulent dire la même chose sont la même forme normale. Donc, toute formule équivalente à ça va avoir le même dessin. Et cette forme normale, elle est tout simple. C'est, je choisis l'ordre des variables. Là, je mets que les numéros des variables, comme fait Knuth, parce que ça prend moins de place, ça se voit mieux. Donc, ça, c'est x0. Et là, je dis, si x0 est vrai, alors... Donc, j'en ai fini avec x0. Alors là, j'ai dit x0 est faux. Deuxième couche, si x1 est vrai, alors si x2 est vrai, alors si x3 est vrai, alors c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai quand on a la même couleur dans les deux premiers trucs et la même couleur dans les deux derniers. Donc ça, c'est 0 vrai, 1 vrai, 2 faux, 3 faux. C'est vrai. Okay, si vous prenez un autre chemin, comme 0 faux, 1 vrai, 2 faux, 3 vrais, et ben c'est faux. Et puis en bas, vous avez donc la table de vérité. Ça, c'est la table de vérité de la fonction. Dans l'ordre, en fait, des min-termes qui sont marqués là. Ça, c'est le min-terme où ils sont tous barrés. Ça, c'est le min-terme où ils sont tous pas barrés. Et vous avez la table en bas. Alors, c'est une très belle structure. Elle a juste un petit défaut, c'est qu'elle est exponentielle. Donc, 200 variables, ça ne va pas bien se passer. Alors, l'idée des BDD est absolument simple. Et elle se voit bien sur cet exemple, qui est peut-être un peu trop symétrique, mais ce n'est pas grave. Premièrement, il y a des nœuds redondants. Tous les nœuds 3 qui sont marqués là, qui sont entourés de vert, ils sont redondants parce que c'est si 3 est vrai, alors bottom, sinon bottom. Donc ça, c'est vraiment pas la peine, donc on va les enlever et les remplacer par bottom. OK ? Ben, c'est pareil pour les 2, là. Si 2, hein, d'accord, ça commence à maigrir. C'est sympathique. Ensuite, il y a des arbres qui sont pareils. On voit qu'ici, on a 3 top-bottom, 3 top-bottom. Ici, on a 3 bottom-top, ici, on a 3 bottom-top. Donc, on va les colorier, là, pour bien les voir. Et puis, on va dire, s'il y en a 2 pareils, ce n'est pas la peine de les séparer, il n'y a qu'à les partager. Donc, par exemple, le fil qui va de 2 vers 3 ici, je vais le rediriger pour aller vers le 3 qui est là. Ouais, c'est pas celui que j'ai montré, désolé, c'est celui-là, là. Celui-là, je vais le rediriger pour aller là-bas. Alors, je pourrais rediriger celui-là pour aller là, mais j'ai préféré garder la symétrie et rediriger celui-là pour aller là. Donc, on a la même structure, mais elle a maigri. Elle a beaucoup maigri. Alors, on peut faire un peu de rangement. Et on n'a pas fini, pardon, parce que si vous regardez là maintenant, vous apercevez que les deux, ils sont pareils. Ce 2-là, quand c'est faux, il va sur ce 3, et quand c'est vrai, il va sur ce 3. Celui-là, il fait la même chose. Donc, on peut les partager. On peut les partager et hop, on obtient cette structure-là. Et cette structure-là, on peut la ranger, et la voilà. Et donc, ça a quand même plus de gueule. Alors, et surtout, c'est plus exponentiel. Ah, alors qu'est-ce qui se passe là ? Ben, ça ne marche pas toujours. La plupart des fonctions sont exponentielles. Énormément de celles dont on sert ne le sont pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des bonnes raisons à ça. Alors, c'est une forme canonique aussi. C'est-à-dire que toutes les formules équivalentes à celles-là, quand vous calculez leur BDD, ça va donner ça. Donc ça, c'est essentiel. L'égalité se fait en temps 1. Pourquoi ? Parce que ça va être implémenté super astucieusement avec des pointeurs dans la mémoire. Tout ça, c'est des pointeurs. Donc peut-être que ça veut dire que ces deux formules qui sont égales parce qu'elles pointent sur le même sous-arbre. Et puis évidemment, tous ces sous-arbres vont être partagés en mémoire, il va y avoir un pointeur pour ça, mais qui est peut-être utilisé par des tas d'autres gens, parce que la mémoire va commencer à se remplir de BDD, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous faites des calculs, voilà. Donc le test d'égalité, c'est instantané. Le comptage des solutions, est-ce que la formule est satisfiable ? C'est trivial. D'abord, est-ce qu'il y en a ? C'est trivial. Il y en a si et seulement si il y a un nœud top. Si la formule est fausse, il n'y a qu'un nœud bottom, elle est équivalente à bottom. S'il y a un nœud top, elle est satisfiable. Et comment vous faites pour compter les solutions ? Eh bien, vous prenez tous les min-termes qui arrivent à top. Donc, vrai, 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 ça arrive là. Vrai, vrai, faux, faux, ça arrive là aussi. Alors, les énumérer, ben, ça va être exponentiel en général, donc il ne faut surtout pas le faire. Par contre, les compter, c'est super facile, je vous laisse faire. C'est juste une petite récursion. Par exemple, compter la taille de l'ensemble des solutions, c'est super simple. Toutes les opérations booléennes sont rapides. Alors évidemment, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on ne commence pas par construire l'arbre de Shannon pour ensuite le comprimer. On travaille toujours avec les arbres comprimés. C'est ça qui est malin. Et donc, quand on fait un « et » de deux trucs comme ça, c'est très simple. S'ils ont la même racine au 0, 0, parce qu'il se peut qu'une variable n'apparaisse pas du tout dans un arbre ou dans un bout de branche. Il se peut que la variable 1 n'existe pas ici, qu'on aille direct là, par exemple, dans une autre formule. Donc, si on a 2 fois 0, ben, on récure dessous, on fait le « et » dans cette branche-là et le « et » dans cette branche-là, on distribue le « et » dans les « ifs and ends ». Et on garde tout le temps la compacité avec des tests très simples. Et donc, on ne va jamais exploser les BDD. Ils vont toujours rester sous forme canonique. C'est très malin, hein, l'implémentation est très subtile. Le garbage collector est subtil. Enfin, tout est subtil dans l'implémentation. Il faut faire ça bien, surtout qu'on va, on va en avoir énormément des BDD, très grande quantité. Bon, il y a des tas d'autres choses dont on parlera l'année prochaine, mais ça permet de faire ces calculs. Il y a quand même une mauvaise nouvelle, une vraie mauvaise nouvelle. Voilà un BDD, Wikipédia est très très bien pour tout ça, hein. Voilà un BDD pris sur Wikipédia, je ne sais pas faire mieux que ça, d'une formule très simple, x1 et x2, ou x3 et x4, ou x5 et x6, ou x7 et x8. Et voilà ce BDD extrêmement filiforme, et on ne peut pas faire mieux que ça, on ne le voit pas très bien, mais ce n'est pas grave, c'est juste sa forme qui compte. Pourquoi il est bon ? Parce que les variables qui travaillent ensemble sont près l'une de l'autre. Ça, c'est un secret dans les BDD. Quand des choses sont vraiment reliées fortement, il faut les garder tout près l'une de l'autre. Et donc, x1 et x2 sont là, x3 et x4, vous voyez, il y a tout à fait une structure régulière. Si vous choisissez un autre ordre, ça se passe moins bien. D'accord ? Puis c'est comme ça, c'est une forme canonique, hein, on ne peut pas changer ça. Donc, l'ordre des variables est absolument critique. Ah oui, mais alors, des ordres de variables, il y en a factoriel n, hein, c'est pas terrible comme idée. Donc, est-ce qu'il y a un bon ordre des variables ? Y a-t-il un algorithme pour trouver un bon ordre des variables ? Réponse, c'est NP complet. Bah, il fallait s'y attendre, hein. Et il y a des heuristiques qui consistent à faire des permutations locales, à étudier les termes pour regarder quelle variable travaille avec quelle autre. C'est très heuristique, hein, c'est assez alchimique. Et quand même, ça arrive à faire des choses. Ce n'est pas magique, hein, ça pète quand même. Alors, les BDD, ça explose en taille, c'est-à-dire ils sont très très grands. Ça explose en taille avant d'exploser en calcul, en général. Contrairement à SAT, qui va faire un peu l'inverse, l'année prochaine, on verra. Les BDD, ça explose facilement, voilà. Alors, je voudrais terminer l'année en revenant sur les cours de 2012 et la compilation d'Esterel et vous montrer qu'on peut faire des optimisations fantastiques avec tout ça. Et ces optimisations sont, quand je parle fantastiques, c'est-à-dire que je ne connais pas de cas où les circuits qu'on ait faits avec ces optimisations n'aient pas été sensiblement meilleurs que les circuits faits par des très bons du domaine. Donc, c'est mieux que les hommes, parce que les hommes, ils ne savent pas faire ça. C'est tout bête, hein. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que le calcul booléen pour un homme... Il ne faut pas essayer. Alors, reprenons le codage des automates. J'avais dit codage one hot, hein, un bit par état. Bon, c'est bien, mais si votre automate fait 100 millions d'états, ça ne va pas aller. 100 millions d'états, c'est 2 puissances pas beaucoup. Hein. Même si votre automate fait 500 états, ça ne va pas aller. Les gens qui font les circuits au bout, ils vont vous dire, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, les gens ne font pas comme ça. Ils vont prendre des codages denses. Hein, au lieu de dire les états, c'est 1, 0, 0, 0, 0, ils vont dire, ben, ils s'appellent 0, 1, 2, 3, ils vont les numéroter. Alors, le codage dense, ça a l'air bien, puisque y a très peu d'états, il y a log n états dans le codage dense, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la fonction de transition qui dit comment on va d'un état à un autre peut devenir exponentielle dans le nombre d'états, c'est-à-dire de la même taille que l'automate one hot. Et comment on sait si la fonction est exponentielle ou pas ? C'est pas de chance, il n'y a pas d'heuristique. Alors, un bon exemple, c'est quand vous prenez juste une chaîne de registres sans logique. C'est-à-dire, les bits, ils vont juste transiter dans une ligne à retard, si on veut. Si vous les numérotez 0, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de logique. Si vous les numérotez random, c'est exponentiel, la logique. Ça consiste à aller d'un nombre random à un autre nombre random, et ça, je suis désolé, c'est la fonction la plus dure qui existe sur la Terre. Donc, ce n'est pas de chance. Et pourtant, alors, on a essayé avec des logiciels du commerce fort chers chez Intel. Bon, ce n'est pas le chiffre exact, mais c'est à peu près cet ordre-là. On avait un circuit à 15 états dans un protocole tout à fait critique d'accès mémoire chez Intel. Et il fallait l'implémenter vraiment, vraiment super vite. Et donc, on a donné cet automate explicite à des logiciels du commerce qui étaient censés l'implémenter. Alors, le premier n'a pas répondu en 48 heures. Il a dû essayer, quoi. Et le deuxième a répondu, il nous a donné un circuit qui était optimal en nombre de registres, mais vraiment trop gros parce que la logique était trop grosse. Et en Esterel, à partir d'un joli programme, et vous allez voir pourquoi, on avait un très bon compromis registre logique, c'est-à-dire on avait plus de registres, on en avait 6 au lieu de 4, et du coup la logique avait disparu. Mais ce n'est pas uniquement à cause de ça. Et donc là, le circuit était vraiment bon, il était bien meilleur que ce qu'ils avaient. Alors, comment on fait ça? Donc déjà, il faut se rappeler d'un truc, c'est en circuit, si vous essayez de réduire le nombre de registres, le nombre de mémoires pour gagner de la place, le danger, c'est ça. Hein? Donc, ce n'est pas une bonne idée. Et est-ce qu'il y a des meilleures méthodes? La réponse est oui. Et la meilleure méthode, c'est d'arrêter de programmer avec des langages plats, dans lesquels tout est posé l'un à côté de l'autre, comme on fait en Verilog ou en tous les langages à base d'équations booléennes. Vous écrivez des équations, ou en Lustre, vous écrivez des équations booléennes plates, et bien là, vous n'avez aucune info. En STRL, où là, c'est 5 charts, donc c'est les state charts d'STRL, avec la sémantique synchrone, vous avez des automates communicants, et ces automates ont des états, ou dans les programmes STRL, c'est pareil quand c'est en texte, puis là, vous avez du texte dans les états, donc c'est pareil, on mixe ce texte. Mais vous avez des informations merveilleuses. Pourquoi? Les états, c'est ça, c'est les points où il y a marqué, c'est des états, ça, c'est des états, ça, c'est un état, ça, c'est un état. Donc, les états, vous les avez explicités. Mais c'est des automates parallèles. Donc, quand vous mettez les trucs en parallèle, ça fait des produits. Donc, un automate parallèle, c'est beaucoup plus petit qu'un automate pas parallèle. Donc, vous avez les états. Et puis, vous avez des informations fantastiques qui est que quand je suis dans un état, je ne suis pas dans un autre. Ça a l'air bête, ça. Eh bien, ça, c'est extrêmement utile. Si vous regardez, vous avez des séquences, dont la séquence de ça à ça, ou des parallèles. Alors, ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est que la qualité du langage source et le fait qu'il soit hiérarchique, parallèle, et qu'il ait de la séquence, il faut les trois, c'est absolument crucial, et pour l'optimisation et pour la vérification. Donc, si vous avez des langages qui n'ont pas ça, qui sont complètement plats, votre problème est beaucoup plus dur. Et de programmation et de vérification, d'ailleurs. Alors, supposez que vous avez un programme dans lequel il y a ici trois machins qui sont en parallèle. Alors, je suppose que c'est des registres, mais ça pourrait être beaucoup plus gros que ça. Ils sont en parallèle. Donc là, je ne sais rien en dire, ils vivent leur vie. Là, ils sont en parallèle. Par contre, là, ils sont en séquence. Et ce groupe-là est en séquence avec celui-là, et ce groupe-là est en séquence avec celui-là. Qu'est-ce que je sais dire? Ben, je nomme ces nœuds A, B, C, D. Okay, rien qu'en regardant le code, sans faire aucun calcul, je sais dire la chose suivante. En notant X incompatible avec Y, c'est que je n'ai pas les deux en même temps. Hein, je n'ai jamais les deux en même temps. Donc en séquence, je ne peux pas être arrêté d'un côté gauche de la séquence et en même temps du côté droit. Donc je dis ça. Je pose A égale R1 ou R2, B égale R3 ou R4 ou R5, C égale R6 ou R7, D égale A ou B, là. Et je dis, celui-là est incompatible avec celui-là, A est incompatible avec B, ces deux-là ne peuvent jamais être vrais ensemble, et D est incompatible avec C, ces deux-là ne peuvent jamais être vrais ensemble. Et donc ça, c'est un prédicat dont je sais déjà que c'est une surapproximation des états accessibles. Il y en a peut-être moins que ça, mais tous les états accessibles sont dedans. Et il a réduit considérablement la taille de l'espace des états accessibles. Ce prédicat va nous servir à plein de choses. Il va nous servir à optimiser tous les calculs de l'état accessible. Parce que j'ai déjà de l'information dessus et je vais m'en servir pour réduire, pour améliorer considérablement les calculs de l'état accessible. Si je pars d'un truc plat, j'ai rien, j'ai pas cette info. Ensuite, ils vont nous servir, mettons, à prouver des propriétés. Il se peut que la propriété soit prouvable directement à partir de ça. Auquel cas, il ne faut surtout pas calculer l'état accessible. C'est ce qu'on appelle faire une abstraction, hein, et une abstraction qui est due à la syntaxe du langage. Bien, et de toute façon, c'est un simplifieur majeur que je file à Jean-Christophe Madre et qui est très content. Du coup, ça réduit bien la taille des calculs. Alors, un exemple, tout simple. J'ai trois registres là, qui vont faire tourner un jeton. Donc, le 1, il va passer de là à là. De là à là, il n'y en a que toujours qu'un à la fois. Le 1 se déplace, il tourne. Et donc, il y a une propriété évidente que vous voyez à l'œil nu, c'est que R3 est égal à la négation du « ou ». C'est-à-dire, il y a un registre là s'il n'y en a aucun là. Donc R3 est égal à non R1 ou R2. Donc ça, c'est le prédicat que je cherchais. Et donc, je peux remplacer dans le circuit, je peux remplacer ce registre par cette porte. Et un registre, c'est beaucoup plus cher qu'une porte, et en énergie, et en surface, etc. Donc j'ai gagné. J'ai gagné quelque chose en faisant ça. Mais là, je l'ai fait à la main. Comment on le fait automatiquement? Ah, voilà la question. Je voudrais savoir si R0, mettons celui-là, ou R1, j'aurais dû l'appeler R0, R2, R1, R2, là, c'est un gros bug, ça. R0, est-ce qu'un registre donné est une fonction des autres? Alors, si je pose la question bêtement, on se dit, oh là là, existe-t-il une fonction? Les fonctions, il y en a 2 puissance n, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire, comme disent les jeunes. Mais c'est trivial. Le calcul pour savoir si un registre peut être remplacé par une fonction est trivial. C'est juste calculer sur la fonction d'accessibilité ou bien le prédicat que j'avais avant, la surapproximation, ça suffit. Est-ce que A de bottom R1, c'est R0 que je cherche. Est-ce qu'en remplaçant R0 par bottom et faire la conjonction avec remplacer le 0 par top, est-ce que ça c'est faux? Si c'est faux, alors je peux remplacer le registre par de la logique. Pourquoi? Ben c'est très simple. Parce que dire qu'on ne peut pas avoir en même temps, quand on a R1, Rn, on ne peut pas avoir en même temps top et bottom pour R0, c'est juste dire que R0 est une fonction déterminée par R1, Rn. Il est entièrement déterminé d'une fonction. C'est tout bête. Donc cette formule magique, quand on ne la connaît pas, on ne la trouve pas, hein, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, cette formule magique dit « c'est bon, ce registre peut être remplacé par de la logique ». Par quelle logique? Eh bien, exactement par ce prédicat-là ou par la négation de ce prédicat-là. Donc en plus, vous connaissez la logique, ça vous la donne. Elle n'est peut-être pas encore optimale, mais les systèmes de synthèse vont l'améliorer. Et ces deux prédicats sont équivalents, mais ils ne s'écrivent pas pareil. Et puis alors là, vous allez être malin. Donc je vous fais la démonstration ici. Je ne vous la lis pas, elle est facile à lire. Je calcule ça, je trouve ça. Je calcule avec top, je trouve ça. Je fais l'intersection, ben c'est bottom, parce que là c'est les deux fois la négation et là, j'ai deux fois le positif, donc ça fait forcément bottom. Donc, c'est bon. Donc, je peux remplacer mon registre par cette fonction-là, qui est celle qu'on avait vue, ou bien je peux le remplacer par celle-là, qui est équivalente, et puis celle-là, elle me plaît mieux, donc je le remplace par celle-là. Évidemment, tout ça, c'est automatique. Ça se fait avec un coup de BDD, stouk-stouk, ce n'est pas un problème. C'est vachement bien de faire retour chariot et d'avoir tout ça qui se passe avec 500 variables. Hein. C'est toujours un grand pied. Mais c'est très bien. Mais alors, il faut être malin. Hein. Parce que si vous remplacez un registre par une grosse fonction de 150 variables, ça ne va pas aller. Donc, vous allez essayer pour tous les registres, puis vous allez voir ceux qui dépendent de très peu de variables. Vous dites, ceux-là, c'est bon, on va les remplacer. Remettre tout ça, resecouer un coup le truc pour voir si ça ne s'est pas mis à faire péter d'autres choses. Ça va, bon, alors on en prend un autre, donc des heuristiques. Puis au bout d'un moment, ça commence à grossir. Allez, on met les pieds sur le frein. Alors ça a été beaucoup amélioré. Il y a des papiers là-dessus hein, qui sont dans la doc ici. Alors voilà ce que ça fait sur, par exemple, la montre que j'avais montrée comme mon exemple canonique. Je démarre, alors ça c'est le système 6 de Berkeley qu'on utilise après pour faire la synthèse. Je démarre, mon code original fait 35 registres, ce qui est beaucoup pour une petite montre. Et puis, il y a les littéraux, c'est en gros la taille de la logique, c'est 990. Bon, c'est pas si simple, mais bon, c'est 990. Et le nombre de niveaux de logique, c'est-à-dire de portes en cascade, c'est 29. Ça, c'est ce qui sort du compilateur STL. Il ne faut surtout pas implémenter ce truc-là. Hein. Pourquoi? Parce que bon, c'est gras. C'est gras, mais c'est de la bonne graisse. C'est de la graisse qui va partir dès qu'on fait de l'exercice. Donc, on va passer les algorithmes dont j'ai parlé, là, calculer les fonctions, tagada, plus d'autres, et on va faire des compromis différents. Donc, on va lui dire, par exemple, je veux optimiser en vitesse. Optimiser en vitesse, ça consiste à aplatir la logique pour qu'il y ait très peu de portes à traverser. On va dire, il y a 3 niveaux de logique, il n'y a plus que 12 registres. Ce n'est pas le minimal du tout, hein. Il y a 41 états dans ce truc-là, donc log 41, c'est 12, ce n'est pas bon pour faire ça. Mais il ne faut pas aller moins, parce qu'après, ça refait, la logique est moins bien. Et puis là, ça va faire une taille de 366. Si vous voulez optimiser en surface, vous réglez un autre paramètre dans le système de synthèse, dans 6, maintenant 6 c'est périmé, et vous avez 11 registres, donc vous en avez moins, et puis vous avez moins de littéraux, mais paf, vous avez fait péter votre chemin. Donc c'est très artistique, la création de circuits, et les logiciels savent faire ça très bien. Et donc, ce qui est important, c'est que si le programmeur écrit bien, si plus le programme est hiérarchique et joli, plus le résultat est efficace. Et ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça, c'est vrai en camel aussi. Quand on a des langages fonctionnels, plus le programme est bien écrit, mieux il va tourner si on n'a pas été stupide. Alors bon, conclusion, le calcul booléen, ben, ça donne un moyen simple de coder énormément de questions. Alors simple, une fois qu'on est habitué, hein, faut relire ça. La première fois qu'on le voit, c'est toujours un petit peu... Mais c'est du niveau début de lycée, hein, les calculs qui sont faits là-dedans. Pas les faire en vrai, mais les comprendre. Sauf, évidemment, on n'apprend pas la logique au lycée, donc il n'y a pas de problème. Les récentes avancées en calcul booléen, je vous ai parlé des BDD, mais je ne vous ai pas encore parlé de SAT. Ce sera pour l'année prochaine, les algorithmes de satisfiabilité. Ça permet de calculer en grand. Alors, ce n'est pas magique, hein, mais bien. Et puis après, il faut être modulaire et tout. ce qu'on pensait impossible encore récemment. Donc c'était vraiment, vraiment un grand bouleversement. Les calculs peuvent exploser et ils demandent un contrôle fin. Et puis, rendez-vous de l'année prochaine pour comprendre comment tout ça s'est fait. Et en particulier, pour revenir à mes cours de l'année dernière, où on avait fait le théorème de Hurry-Coward sur le fait que l'électricité dans les circuits se caractérise exactement par la logique constructive, eh bien, quand on a un circuit avec des boucles, avec des cycles combinatoires, est-ce qu'il est bon ou pas ? Eh bien, voilà, c'est implémenté dans Tiger avec des BDD par Tom Scheipel aux États-Unis, et c'est intégré dans le compilateur STL, et c'est un algorithme malin qu'il faut bien faire, et puis il vous donne aussi une version acyclique du circuit. On l'a utilisé, j'avais montré l'année dernière le décodeur, le calculateur de longueur d'instruction du Pentium, qui est un design fabuleusement joli, et qui est cyclique. Si on n'écrit pas cyclique, il devient horrible. Si on écrit cyclique, il est très très beau. On passe Tiger et crac, on en obtient automatiquement une version acyclique équivalente. Et parce que si la version cyclique marche très bien électriquement, mais si on la donne à Synopsys, Synopsys nous dit « Oh, je ne sais pas calculer le timing de ça ». Donc, pour une bonne raison, c'est calculer le timing, c'est exactement comprendre si elle marche ou pas. C'est un autre sujet. Et donc, je montrerai l'année prochaine comment, pour revenir au cours de l'année dernière, comment on utilise les BDD pour faire ce calcul. Donc tout ça, pour nous, ça a été une époque fantastique. C'était les années 92-93, avec une grande difficulté industrielle, c'est qu'on était en train de vendre le compilateur STL V3, qui, lui, générait éventuellement des codes exponentiels en taille. Il faisait des automates déterministes. On n'avait pas encore compris qu'il ne fallait jamais faire des automates déterministes. Et brusquement, donc, c'était sur le marché. Il y avait des commerciaux qui le vendaient. Puis un jour, on leur a dit « Oh !» Au fait, on fait exactement la même chose, mais ça n'explose plus jamais en taille. Et puis, il faut acheter le système de BDD. Et là, ils ont fait un peu la gueule à l'époque, puis ils ont fini par le faire. Et ça nous a permis de faire... Je pense que les preuves qui ont été faites en Tiger sur le Rafale devaient être parmi les toutes plus grosses preuves de l'époque. Et à chaque fois, c'était des propriétés vraiment chevelues sur le Rafale. Et le Dino en a un peu parlé. Il y avait, par exemple... J'en cite une pour terminer l'année. Il y avait un boîtier qui s'appelait le boîtier... Ça, c'est publié. Un boîtier qui s'appelait le boîtier de tests et maintenance de l'avion qui fait les tests de l'avion. Et il y a des tests au sol et des tests en vol. Il n'arrête pas de tester l'avion tout le temps. Hein. Et donc, c'est très important, ces tests, parce que c'est là qu'on peut détecter des problèmes. Et il y a une difficulté, c'est qu'il faut que les tests au sol et les tests en vol ne soient pas confondus à runtime. Il faut qu'il n'y ait aucun risque de faire les tests au sol, en vol, etc. Un exemple, c'est les tests ou certaines actions. Alors, deux exemples. Au sol, on fait flap-flap avec les ailerons avant de décoller. C'est une très, très mauvaise idée de faire ça en vol. Et en vol, on rétracte le train d'atterrissage et c'est une très, très mauvaise idée de faire ça au sol. Donc, les preuves, c'était du genre... Donc, ils avaient fait ça avec un operating system standard, asynchrone, avec des interruptions et tout. Et ils n'avaient aucune idée de si ça marchait ou pas. Donc, ils ont enlevé ça, ils ont fait tout le scheduling de la bête avec un programme STL, BTM, que j'ai encore, et on l'a filé aux copains chez DEC, qui ça les a quand même secoué un peu leur système, et les preuves ont été faites. Et c'était avec les ordinateurs de 92, c'était quand ça 92, et c'était tout neuf, tout ça. Et donc, on a fait des preuves chez Dassault, avec le Dino, qui est fantastique. On a fait des preuves vraies sur de vrais avions, sur des gros programmes. Il y en a eu d'autres. C'était assez rigolo de voir les choses qu'ils nous soumettaient, mais je ne peux pas trop en parler. Voilà. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour voir comment tout ça est à l'intérieur. C'est beau comme ce n'est pas possible. Et puis, j'ai mis une bibliographie historique. Donc, ce n'est pas les papiers les plus récents. C'est les papiers qui ont vraiment conduit ce domaine de l'état de rien à l'état de beaucoup, ce qui est quand même ce qu'il y a de plus intéressant dans la science. Voilà. Et puis la Bible de Knuth, évidemment. Je vous remercie.